Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted, l'émission de rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. On va parler hip-hop. Pour cette émission de rentrée, qui dit rentrée dit nouveauté. J'étais accompagné de mon fidèle compagnon Jojo pour les deux émissions précédentes. Et ce soir, il y a Momo qui nous rejoint. Comment ça va les gars?
Ça va, nickel.
Ah, bienvenue à toi Momo.
Merci beaucoup, très content d'être avec vous aujourd'hui. Et voilà, vous pouvez me considérer comme étant le transfert le plus cher de la radio française.
Exactement. Donc on va se débrouiller à trois pendant les prochaines émissions. Petit rappel du concept, on va parler hip-hop, on va parler hip-hop qu'un riz. On va faire focus sur une scène comme d'habitude. On a fait Houston, on a fait la BREA avec le son Hi-Fi. Si vous voulez réécouter les podcasts, n'hésitez pas, vous allez sur les réseaux sociaux de l'émission, Deeply Rooted de l'émission sur Facebook et Deeply Rooted FR sur Twitter. Pour ce soir, on va retourner dans le sud, mais direction Memphis cette fois-ci, pour étudier quelque chose d'assez macabre, c'est le Devil Shit.
C'est le mot macabre. On va parler donc de l'horrorcore venu de Memphis. L'horrorcore, c'est un genre de rap alternatif qui se fait un peu partout aux États-Unis et même ailleurs. Mais à Memphis, c'est encore plus particulier et c'est pour ça qu'on a appelé ça le Devil Shit. Et aujourd'hui, ça sera donc notre sujet.
Exactement. De toute façon, comme d'hab, on va vous mettre du son à mort pour vous mettre dans l'ambiance. Le premier va vous faire comprendre un peu les sonorités de ce qu'on va parler ce soir. Ça va être 36 Mafia, un groupe...
Groupe phare.
Ouais, le groupe phare, on va dire.
The Legend de Memphis et une des légendes du Sud dans le rap américain.
Des Saintes Trinité avec UGK et Outkast.
Tout à fait. N'oublions pas Ghetto Boys de Houston.
Exactement. Donc, on va s'écouter 36 Mafia avec Destruction Terror qui date de 96. Ensuite, on vous fera une petite présentation de la scène. On étudiera les artistes principaux avant de voir les influences, comme d'hab. Allez, on se balance le son, on se retrouve juste après. C'était la 36 Mafia avec Destruction Terror, issu, comme tu l'avais dit, de l'album Chapter 1, The End, de 96.
Un morceau au titre quand même assez évocateur pour ce qu'on va parler.
Ouais, on va voir. De toute façon, généralement, tous les titres vont être assez parlants.
Ah oui, on est très proche du sacrifice, d'attaque, de films d'horreur, ce genre de choses.
Voilà.
C'est absolument dégueulasse.
Exactement. Mais avant d'attaquer ça, comme d'hab, on va vous faire un petit retour historique sur la scène. Parce que Memphis est quand même une place forte au niveau de la musique. Là, on débarque dans le Tennessee. C'est une autre ville importante du Dirty South, la fameuse troisième scène, non, c'est ça, comme oui, certains l'appellent. On avait déjà
Coast.
Exactement. On avait déjà évoqué Houston. Mais on voit que Memphis, justement, a son style vraiment particulier et qui va caractériser la scène pendant un long moment. Même aujourd'hui, quand on parle de la scène de Memphis, généralement, on fait un peu référence à ça, à ce Devil Shit que tu avais évoqué. Mais en reprenant au début, avant même que la scène hip-hop elle apparaisse, donc c'est une ville où les musiques, c'est vraiment, elles vont se côtoyer, se marier de nombreux styles. J'avais vu l'appellation qui disait que justement c'est la capitale de la musique populaire noire américaine, parce que bien sûr on est dans le sud des États-Unis, non, t'es pas d'accord?
Pourquoi pas avec la Nouvelle-Orléans, quoi. Mais...
Oui, voilà. Bah, en fait, c'est déjà dans cette zone-là, c'est donc.
C'est une ville importante, très clairement.
Oui.
Voilà, grosse cité marchande à la base, spécialisée dans la vente de coton, et qui a été spécialement marquée par la ségrégation, comme tout le Sud plus généralement, et qui restait donc longtemps sous le régime des lois sudistes, c'est-à-dire un système totalement raciste. La musique va justement servir de vecteur pour accompagner les luttes de la communauté afro-américaine après des années de discrimination, et c'est pas pour rien, donc ça va être un haut lieu de combat pour les droits civiques des Noirs américains, notamment à la fin des années 60. Et qui sera marqué malheureusement par l'assassinat de
Martin Luther King.
Et... Voilà, à Memphis justement. Mm.
D'ailleurs, justement, il y a une personne qui disait que l'ambiance à Memphis qui régnait, c'était ce côté poisseux et triste en référence à l'assassinat et que ça avait totalement marqué l'histoire de la ville. Mm-hmm. Et que ça a eu une répercussion sur la
mentalité. Quand on parle tristesse et musique, d'ailleurs, j'allais y venir, c'était y a le blues qui va émerger, grosse ville dans ce secteur-là, qui va émerger comme un moyen de résistance aux pressions de la société blanche et qui va façonner la ville jusqu'à exploser à partir des années 50. Voilà, on va pas citer à chaque fois tous les artistes, mais Muddy Waters, B.B. King, autant de grands noms qui ont marqué la ville et qui ont laissé cette tradition, si vous y allez encore aujourd'hui, au niveau des festivals, des lieux, etc. C'est l'un des premiers courants musicaux qui a vraiment marqué Memphis. Mais après, ensuite, on a la soul, Avec le label emblématique notamment du genre qui va être Stax Records, qui est lancé en 57 et qui va produire
premier concurrent de la Motown, quoi.
Gros. J'allais y venir après, c'est un peu plus tard, mais quand c'est lancé, ils essayent en plus vraiment de produire principalement des artistes afro-américains. Et voilà, pareil, 2-3 noms ultra connus, quoi. Otis Redding, Isaac Hayes, entre autres.
Mais c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a aussi une très grosse scène horrorcore à Détroit. Et c'est marrant que t'as la Motown Détroit et l'horrorcore
ouais,
Détroit
déjà,
et ce côté-là, Soul.
J'ai pas remarqué ça, mais bien vu.
Parce que c'est vrai que c'est justement dans les années 70 où ils vont exporter dans le monde entier les artistes, hein, carrément, et qui vont se poser justement en concurrent déjà à l'époque de la Motown de Détroit. Et en fait, eux, ils vont dans Stax Records, justement, ils vont réussir à mélanger un petit peu les musiciens afro-américains issus des différents courants, le rhythm and blues, la soul, justement, le gospel, avec d'autres musiciens plutôt originaires des musiques blanches, on pense à country notamment. Et donc, au-delà de la création musicale, ça va être un lieu de rencontre vraiment important pour la ville, un lieu de mixité sociale qui va permettre de mettre un certain nombre de personnes à l'abri des effets de la ségrégation, quoi, qui sont là au quotidien. Et c'est de ce label en grande partie qu'on va dire qu'il va sortir un véritable Memphis Sound, c'est-à-dire une soul qui est vraiment bien à eux, et on le verra, qui influencera nos amis les rappeurs par la suite.
Ça sera beaucoup réutilisé dans les samples.
Voilà, exactement. Et dernier courant, on peut pas avant d'attaquer le hip-hop, on peut pas passer à côté, c'est le rock'n'roll. Et dans les années 50 à 70, c'est l'explosion de l'autre gros label local aussi également, qui est Sun Records. Et là, qui comptait dans ses rangs des monstres comme Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, mais aussi l'ami Elvis Presley, icône
grand rappeur Johnny Cash.
R.I.P. Elvis.
Icône et figure du bon vieux rockabilly, que je sais que tu apprécies tout particulièrement.
Oui, c'est quelque chose que je pratique tous les week-ends en compagnie
exactement.
De la
douce.
En chantant le yodel, oui.
Que tu danses très bien, exactement.
Je ne ferai pas de yodel aujourd'hui, mais on garde ça pour plus tard.
Du coup voilà, c'était juste pour faire un petit topo sur la ville. On voit que voilà, on va parler hip-hop, mais c'est une ville qui a été vraiment marquée par son histoire musicale et sociale, et donc ça pouvait pas être tenu à l'écart de l'émergence du rap quand ça débarque au début des années 90 avec les premiers pionniers. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps, Jojo tu pourras peut-être nous en parler, à cause de justement un peu cet héritage, mais aussi le manque d'argent, on reviendra un petit peu, qui a bloqué la scène un petit moment. Bah, je te laisse peut-être nous présenter les mecs qui ont les premiers pionniers du hip-hop.
Pour les pionniers du rap, en fait, comme beaucoup de villes dans le sud, ça d'abord dans les clubs que le rap a débarqué. Mm-hmm. Donc ce sera les DJ de club. Le premier, c'était Ray the J, qui lui, il fait des sets disco, et puis des fois, il balance des petits sons. Enfin, en fait, lui, il balance des hits. Donc les hits du rap de New York, il les balance et puis il fait des petites vannes dessus, apparemment c'était très drôle. Il n'y a pas trop de traces, malheureusement on ne peut pas trop écouter, mais en tout cas il avait cette réputation là. Le premier qui sera vraiment important, le premier personnage très important, c'est DJ Spanish Fly. Lui il aura vraiment une très très grande influence. Lui c'est-à-dire qu'il recompose des sons avec un BPM plus ralenti et il booste le tout avec la fameuse Roland TR-808.
Clairement, la patronne du Sud.
C'est l'actrice principale de toute la scène sudiste.
Qui vient pas du rap, forcément, à la base, hein, d'ailleurs. Elle
non,
était
non,
pas
non.
Utilisée.
Non, non, elle a été popularisée par le rap. Mais voilà, donc ça donne un truc. Pour DJ Spanish Fly, ça donne un son plus sale, plus street. Et ça attire un peu tous les mecs qui traînent. Les plus les mauvais garçons, entre guillemets, qui vont attendre son passage en boîte pour danser, se déhancher en pratiquant notamment ce qu'on appelle la bug dance, ce qui sera aussi appelé plus tard le gangsta walk. C'est un type de danse mouvementée assez drôle, je vous invite à aller regarder des petites vidéos sur YouTube. Et puis il est également pionnier dans son mode de distribution puisqu'il enregistre ses mixtapes, ses cassettes quoi, qui redistribue à la sortie des clubs dans lesquels il joue. Donc ça aussi, ouais. ça aura son importance parce que le modèle de Memphis, enfin le produit musical, c'est souvent des cassettes.
Et distribué à la main, ça on avait un peu vu ça sur Houston justement, non?
Sur Houston, il y avait beaucoup ça, ouais. Avec DJ Screw et même on en parlait même un peu dans la BRA. Donc faut croire qu'on a un truc avec les cassettes.
C'est distribué à la sortie des clubs, etc. Et contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas Lil Wayne qui a popularisé la mixtape de cette manière.
Non, Lil Wayne c'est un peu plus tard. Même. Et voilà, donc ça c'était pour DJ Spanish Fly qui est donc peut-être le pionnier le plus important, le premier. Après, comme en tant que pur rappeur, le premier à se démarquer, ce sera Gangsta Pat, qui est le premier à se faire signer en major sur Atlantic Records. Et lui aussi, il est déjà aussi dans un, dans une écriture et des lyrics vachement violents et, qui annoncent la couleur de ce dont on va parler, le Devil Shit. Voilà, donc Gangsta Pat et puis...
Donc ça, c'est les premiers acteurs de la scène de Memphis. Et il y a une autre, un autre point fondamental qui a influencé les rappeurs de Memphis. C'est tout l'imaginaire et toute la culture qui a été développée par les films d'horreur à partir des années 70. Et puis après, ça par la popularisation des slash movies, ce genre de choses, Wes Craven. Donc ouais, c'est quelque chose qui a vraiment imprégné la scène, et même musicalement, parce que ça a été une source d'inspiration pour les samples. Il y a beaucoup de films d'horreur qui ont été samplés pour faire des beats. Et je vous invite d'aller les voir. Il y a un article de l'abécédaire du son qui donne une trentaine de sons avec les différentes, enfin, les meilleurs prod rap qui se sont inspirés ou qui ont samplé des films.
De toute façon, d'horreur. Vous allez voir, dès qu'on va passer les sons, vous verrez qu'il y a vraiment une ambiance film d'horreur. Donc justement, il y a eu ces premiers mecs qui ont débarqué et qui ont fait leur truc, qui ont lancé clairement la scène hip-hop. Et là, après, il y a ceux qui vont rejoindre vraiment le cœur de ce dont on va parler, l'horrorcore justement et le Devil Shit de Memphis, et qui eux, ouais, vous allez entendre quoi, c'est vraiment
très spooky, comme ils disent aux États-Unis, ouais, Three-Six Mafia.
Creepy
spooky.
Exactement. Bah du coup, on va se passer un petit coup Stanica.
Ouais. Stash Pot.
Exactement.
Rappeur de la Three-Six, donc Mafia. Donc...
Qu'on va évoquer après. Et voilà, regardez le titre encore de l'album.
Devil's est... Playground Underground Solo. Donc on reste dans un délire macabre. Et voilà. Ça date de 99.
Le diable toujours présent.
Ça date d'avant en fait, mais ça a été enregistré
ok.
99.
Autant pour moi.
Toujours aussi pointilleux.
Ouais.
Merci
beaucoup. Excusez-moi.
Bon respect.
Allez, on se balance le son. On se retrouve juste après. Coupe Stanica avec Stash Pot. Très très lourd le son. Du coup, c'est un membre de la Three-Six, ça nous donne l'occasion de faire une parfaite transition sur ce que tu vas nous raconter.
Ah bah, carrément. Incroyable transition.
Three-Six Mafia, ouais. Bon, bah, pour ceux qui connaissent très peu la scène de Memphis comme moi à la base, c'est un peu le groupe que tout le monde connaît de base, qui ont marqué du monde. Après, je saurais pas dire combien il y a de personnes dedans. Donc,
Ah bah, ils ont été pleins, ils ont été peu à un moment, beaucoup trop...
Ouais, comme
puis pas assez. Ouais, Three-Six Mafia, c'est...
Il y a un noyau dur.
Ouais, il y a un noyau dur, bien évidemment, de la Three-Six, qui est encore actif aujourd'hui, donc on parlera un peu plus tard. Mais voilà, fondamentalement, Three-Six Mafia et Ball et MJG, c'est les deux groupes phares de Memphis. Donc la différence majeure entre les deux, c'est que la Three-Six n'a jamais quitté Memphis. Donc ils ont toujours été actifs sur place, tandis que 8Ball et MJG, le duo, est originaire de là-bas. Mais comme tu le disais un moment, par manque de moyens, ils ont dû partir...
Ouais, ils sont carrément essayé de s'exporter là où il y avait des mecs qui étaient prêts à investir sur eux, quoi. Parce que...
Exactement. Ouais, ils ont été signés sur le label Suave House de Houston, du coup, déménagé, ouais.
Exactement. Mais du coup, voilà, pour revenir à Three-Six Mafia, comme tu disais, tout à la base, ça a été fondé par DJ Paul et Lord Infamous, qui sont deux demi-frères, et qui ont commencé à sortir
sombre
des projets
famille.
Ensemble. Pardon ?
Une sombre famille.
Ah oui, une très sombre famille, la Three-Six. Et donc voilà, qui ont commencé à lancer des projets tous les deux, sous le nom de The Serial Killers, donc on est encore dans le nom un peu lugubre. Donc ça, c'est bien avant la Three-Six. Après, ils ont été rejoints par Juicy J, que je pense maintenant les gens connaissent aussi parce qu'il est en solo. Et ils ont formé le Backyard Posse, donc ils ont aussi sorti des projets ensemble. Et la Three-Six Mafia, en tant que telle qu'on a connue et qu'on connaît encore... a démarré au moment où Coupe Stanica, que vous avez entendu, les a rejoints, et un peu plus tard Crunchy Black et Gangsta Boo. Donc voilà.
C'est-à-dire quelle période à peu près
C'était un peu en 96, 95.
Plutôt, je dirais 93, 94.
Ouais, voilà.
Ah ouais.
Ouais, c'est ouais. Début des années 90 que.
Il s'appelait Triple Six.
Ouais, voilà,
c'est ça là-bas.
C'était Backyard Posse, Triple Six Mafia.
Voilà, les noms ont changé, mais.
Et c'est devenu la Three-Six Mafia. Une fois que voilà, toutes ces personnes étaient réunies dans le groupe. Mm-hmm. Donc, comme DJ Spanish Fly, ils ont commencé aussi par les cassettes.
Ouais, comme toute la scène, ouais, il y a plein de cassettes avant leur discographie officielle, il y a plein de trucs qui sont sortis.
Et ouais, c'est ce qui donne aussi ce côté, peut-être pas lugubre, mais qui donne le côté crade au son, un peu ce qu'on appelle la lo-fi, quoi. Mm-hmm. T'enregistres dans des conditions un peu miteuses. Et ça donne un côté authentique et mécrado à ton son, quoi.
Très recherché en ce moment, ça revient.
Bah ouais, carrément. Et puis t'as tous les Nujabes, par exemple, le beatmaker japonais qui était dans ce délire-là. Tous les hip-hop un peu jazzy aussi, qui font des sons. Les Japonais, ils sont pas mal dans ce délire-là. Et ouais, que je peux que conseiller aussi d'aller écouter Nujabes, DJ Okawari, etc. Très très lourd.
Absolument.
Mais voilà. Pour revenir à la scène de Memphis, ils ont commencé via des cassettes, la Tri-6, et ensuite ils ont sorti leur premier album Mystic Styles, qui est un succès d'estime et commercial. Ça reste local, mais ils font, ils booment à ce moment-là, quoi. Et très gros classique, Mystic Styles.
C'est le gros classique, peut-être le plus gros de ce, que, tout ce, que, ce dont on va parler.
Et il n'y a aucun Mystic son à jeter.
Si vous êtes intéressé par le son encore un peu plus crado, ils ont, il y a une compile de leurs meilleurs sons d'avant, d'avant justement Mystic Styles, qui s'appelle Underground Volume 1, je crois.
Et sur cet album Mystic Styles, du coup, vous avez vraiment toutes les personnalités des gens qui composent la Tri-6 qui se font, quoi. Vous avez Lord Infamous et son flow Double Time Triplet. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir qui a influencé énormément de monde. Et du coup, sur YouTube, vous avez même des petites vidéos où vous avez.
J'ai vu ça.
Le flow de Lord Infamous et par exemple Migos. Qui est, on va pas dire pompé, mais on est sur une inspiration plus, quoi.
Mm-hmm. Et puis il n'y avait pas une embrouille avec le Bon Tugs et l'Harmonie.
Si, avec ce groupe de Cleveland, voilà, où vous réécoutez, on dirait que, en fait, ils sont sortis à peu près en même temps,
ouais,
mais les
ça.
Deux groupes se connaissaient pas. Et quand les mecs de Crazy Bone, pas de Crazy Bone, oui, pardon, de Bon Tugs et l'Harmonie, voilà, sont tombés sur les sons de Lord Infamous et de la Tri-6. Ils ont pensé qu'il y a eu plagiat, du coup il y a un diss track qui a été fait.
Ouais, j'avais vu ça.
Live by your rap.
Ouais. Voilà, donc il y a eu petits échanges, feuds comme ils appellent ça aux États-Unis, mais voilà, avec le temps ça s'est calmé, rien de très fou. Et donc déjà, Lord Infamous, en termes d'horrorcore, on était dans les paroles, on était dans le satanisme, dans le côté street aussi, dans le meurtre.
Il était dans la crasserie la plus infâme.
Ah ouais, on était clairement dans ce délire-là. Et voilà, vous avez un peu plein de petites facettes, vous avez Gangsta Boo qui est. Voilà, qui est le petit côté Kaira et doux, féminin de...
Parfois rejoint par la chat.
La chat, ouais, sacré nom d'ailleurs. Alors, c'est écrit
quel, ouais, quel personnage, parce que j'ai lu plusieurs trucs là-dessus, il y avait pas mal de fans de la chat, justement.
La chat,
la chat,
c'est
oui,
pas trop étonnant,
être...
ça.
C'est, voilà, c'est un membre... Alors, la chat n'a pas fait partie de la
C'est
de
une
la
nana, Tri-6. On est d'accord.
Oui, c'est une, c'est une nana, la chat, qui a gravité autour de la Tri-6. Vous avez Coupe Stanica, qu'on a entendu avant, donc c'est vraiment chaud, flow chantonné, pardon, et et voilà, et petite voix nasillarde, et c'est top, nickel.
Ouais,
vous avez
sympa.
Crunchy Black aussi, qui est un peu plus, on va pas dire anodin, mais qui...
C'est le moins bon rappeur de la Tri-6.
Ouais.
Qui est le jugement.
On est sur un Menzo,
et
ce genre de choses. Vous avez toujours, non, mais dans tous les groupes, il y a toujours un mec qui...
On l'aime bien, mais bon. Il y a toujours 2-3 personnes, quand même, généralement, qui se disent « Ouais, non, mais lui, je l'aime bien, il apporte ci ou ça, mais... »
Il faut une fanbase pour tout le monde,
ouais,
quoi.
Exactement.
Et vous avez, bien sûr, DJ Paul et Juicy J, qui étaient à la prod et qui sont un peu les cerveaux en termes de business de la Tri-6, quoi.
Et puis, comme c'est la prod, c'est un peu les. Enfin,
ouais,
le son Tri-6, c'est quand même.
Ça vient d'eux, ouais. Le côté spooky,
hein.
Les samples et tout.
C'est-à-dire,
c'est
ouais.
Peut-être le rappeur le plus important, ouais. Et les deux, c'est. Voilà.
Ouais, le son, du coup, vous le détestez. Enfin, comment vous arrivez à identifier le type de son de la Tri-6, justement?
Bah, c'est des grosses basses. Vous avez la. Enfin, t'as la Roland TR qui est derrière. Ils appellent ça le hi-hat, quoi. C'est. Et je crois que c'est au niveau des BPM, c'est ralenti ce qu'ils font. Là-dessus, je suis un peu moins technique, peut-être que Jojo qui...
Mais on est déjà dans des trucs angoissants, etc. Quoi.
Oui, on est déjà dans des trucs angoissants.
Mais sachant que dans les...
Il y a quand même des samples de soul aussi,
ouais.
Tu vois, c'est
ouais.
Ça aussi la particularité, c'est que je crois que l'artiste qu'ils ont le plus samplé, Juicy J, j'ai vu l'interview, il disait que c'était Willie Hutch, qui est un mec qui fait de la musique blaxploitation. Donc voilà, ce qui est un peu en même temps un paradoxe, en même temps logique, comme tu disais tout à l'heure, évoquer la scène soul de
ouais,
Memphis...
Ouais.
Ça se retrouve aussi là, quoi.
Et au niveau des, parce que au niveau des visuels aussi, on en a pas encore parlé, mais c'est là aussi directement inspiré. C'est
ah oui,
horreur,
oui.
Crade.
C'est très
lugubre,
c'est très noir. T'as du rouge qui apparaît un peu partout. Tu vois, t'as ce côté-là visuellement rouge qui stresse un peu. C'est des, ils sont dans des postures un peu bizarres, ou alors dans des pièces en mode tamisé. Tu vois que dans la pièce, et ils sont un peu mal éclairés. Enfin, même le surnom de Lord Infamous, c'est The Scarecrow.
Ouais,
c'est
le tout chez eux, le champ lexical.
C'est l'épouvantail. Tout un champ lexical autour de ça. Et donc, c'est aussi bien musical que dans la représentation qu'ils envoient, que voilà, dans toute une ambiance qui développe. Et donc, tout ça, ils le développent à une cadence très, très élevée. Il faut savoir qu'ils sont ultra productifs à un moment. Et ça a aussi une influence, je pense, sur le mode du son sudiste maintenant, où voilà, on sort des mixtapes à l'appel.
Ça a toujours fait partie du jeu là-bas,
ouais.
Très productif, et de balancer bah, de balancer à mort, quoi.
Ouais, tu peux pas disparaître pendant un an ou deux et ne rien faire, quoi.
Aujourd'hui, clairement pas, et avant, c'était déjà un peu le cas. Ouais.
Donc, ouais, ils continuent sur cette cadence élevée, donc ils ont, pas dire percé de plus en plus, mais ils se font de plus en plus connaître, voilà, nationalement, parce que ça restait local au début. Et donc ça s'est permis via leur productivité. Ils signent en major aussi, ce qui leur permet de rééditer des sons, en fait, pour et acquérir une nouvelle fanbase et reproposer du son.
Parce qu'à la base, ils sont en indé quand ils se lancent.
Ouais, ils sont en indé. Via Hypnotize Mind, c'est pas le premier album, ils le sortent...
C'est juste après,
ouais, je pense que c'est juste après le premier album.
Sur le deuxième album, c'est déjà Hypnotize Mind. Ouais.
Mais ils sont signés via une major, je crois, à ce moment-là.
Oui, il y a un deal avec une major.
Ok, ouais, ils sont pas dans le total indépendant.
Ouais, mais ils sont, c'est, ouais, y a une partie distrib qui est assurée par une major. Et voilà, donc ils rééditent tous ces petits sons-là, et il y en a beaucoup, hein, des sons crado qu'ils avaient fait à l'époque, qui leur permet, voilà, de consolider une fanbase et d'en avoir de plus en plus. Donc ils font plein d'albums. La Trisix, c'est, il faut savoir qu'à un moment donné, ils arrivent aussi... on va dire une reconnaissance nationale et internationale pour deux raisons. Ils ont leur album Most Known Unknown qui sort avec le tube Stay Fly, qui est avec 8-Ball and MJG et Young Buck, des personnes qui viennent du Tennessee et de Memphis pour 8-Ball and MJG. Et voilà, donc ça c'est un sacré tube, ça leur fait, ils font platine minimum sur cet album-là, donc là il n'y a plus rien à dire. En termes de reconnaissance et locale et internationale, et ils vont encore plus loin parce qu'on leur confie l'ABO de une partie de l'ABO de Hustle and Flow de John Singleton qui est sorti en 2006. Et ils gagnent un Oscar pour cette chanson là
la chanson du film, quoi.
It's Hard Out There to Be a Pimp.
Ouais, It's Hard Out There to Be a Pimp,
ouais, ouais, voilà,
en j'avais, un truc dans ce...
j'avais plus tout on à fait le presque. titre, et c'est le deuxième acteur du rap à gagner un Oscar pour une chanson après Eminem.
Ouais, je pensais que c'était le premier.
C'est les deux.
Non, ils arrivent. Bah, ils sont deux et je crois qu'ils arrivent juste après. Ouais. Et donc, ouais, Trisix Mafia, au-delà même de ça, c'est au-delà même d'une reconnaissance internationale, c'est aussi des gens qui font beaucoup croquer leur entourage. Donc, comme on le disait, il y avait la chat, il y avait Project Pat,
frère aîné de Juicy J.
Voilà.
Qui a son album, son deuxième album, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'album qui a le plus vendu du label Hypnotize Mind. Très bon album. Et globalement, le catalogue Hypnotize Minds est assez exceptionnel. Je recommande de se plonger dedans.
Après, du coup, donc eux continuent à se diversifier au final. Je pense notamment aux DJ Paul et Juice J qui eux, voilà, lancent des carrières solo, produisent pour UGK, Justin Timberlake, bien sûr. Et donc voilà, eux continuent à se diversifier. Malheureusement, le groupe, pour deux raisons, ça disparaît pas, hein, je sais pas ce que je veux dire, mais ils font moins dans le son sudiste de Memphis. Ils font vraiment...
Ils s'écartent un peu du...
Ils s'écartent du son de base, ouais, parce qu'il y a un rouleau compresseur du sud qui vient de la Nouvelle-Orléans, d'Atlanta, etc., et notamment aussi de Memphis, qui roule littéralement sur les États-Unis, on entend que ça, et eux se mêlent plus à cette nouvelle vibe-là, plutôt que rester sur...
Ouais, et puis ils se renouvellent aussi, quand même, peut-être.
Oui,
ils
essayent
de faire un peu autre chose, quoi.
Exactement. Vous avez dit, Lord Infamous, lui, par contre, il continue à aller dans ce sens-là.
Il ne sait pas faire autre chose.
Oui, il ne sait pas faire autre chose, mais...
Il le fait bien, quoi.
Voilà, c'est ça. Ce qu'il sait faire, il le fait très, très bien. Donc, je peux vous citer des titres d'albums de Lord Infamous. Il y a The Scarecrow, Da Terrible, Voodoo, King of Horrorcore. Donc, on voit clairement, il est resté dans ce délire-là très ténébreux. Du David Sheet des Memphis.
Ok. Bah, de toute façon, on reviendra en fin d'émission sur les parties des influences, parce que c'est toujours ça qui est intéressant à étudier aussi, de voir comment eux, ils ont marqué, bon, on l'a dit, au niveau local, mais aussi national et international. On va se faire la petite pause musicale, la petite mi-temps de l'émission avec deux sons qui vont arriver. Le premier, ça va être un son de la Trisix, justement, No I'm High. Part 3,
ouais. Du premier album Mystic Style, donc le classique ultime du Devil Sheet.
Exactement, et ensuite on se fera un deuxième de Tommy Wright 3,
Getting Crunk,
qui nous permettra de faire la jonction avec la deuxième partie où on parlera un petit peu des autres personnages de la scène, des autres mecs
importants. Personnages un peu moins connus de la scène de Memphis.
Mais petite précision pour le son de Tommy Wright 3, c'est pas lui qui rappe, hein, c'est Project Pimp, un mec de son crew.
Voilà, mais c'est sur son projet. Ok, bah on se retrouve juste après. Bonne écoute. De retour dans Deeply Rooted sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. On est toujours tous les trois, je suis avec Momo et Jojo. On s'est écouté le son de Tommy Writer de Getting Crunk. Donc c'était pas lui qui rappe, c'est bien ça ce que vous avez dit tout à l'heure, si j'ai suivi.
Project Pimp, encore un super blaze.
Et du coup, on a vu un petit peu le... Enfin, on a fait un gros point sur la Three Six Mafia parce que ça, il le méritait clairement. Et là, tu vas nous faire un petit peu un point sur les autres artistes de la scène, les autres mecs importants quand même qu'il faut... Enfin,
ouais, ouais,
de ce
voilà,
style-là,
parce
en
que,
tout cas.
Parce que la Three Six, c'est clairement le truc le plus connu, enfin, le point central de ce dont on parle, mais c'était pas les seuls non plus. Et moi, comme il paraît que je suis un puriste, eh ben, je vais jouer le puriste et je vais donc vous parler des artistes moins connus.
Pas qu'une rumeur.
Ça se discute, on réglera ça plus tard. En tout cas, voilà, donc comme on disait tout à l'heure, à propos de la début de carrière de la Three Six, c'est généralement tous les albums des artistes de Memphis, c'est souvent des mixtapes, des cassettes, avec une qualité de son assez dégueulasse, très généralement, enfin voilà, ça fait aussi partie du charme. Et voilà, ça c'est un truc que tous les artistes de là-bas partagent, hein, ce côté crado.
Ouais, le grain sonore derrière, un peu dégueu, ok.
Mais ils ont quand même des styles assez variés globalement, donc on va faire un petit listing. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont organisés comme des gangs de rue, tous les crews de rappeurs. Donc dans le quartier Orange Mound, il y a la Three Six, mais il y a aussi DJ Squeaky qui est un des pionniers de la scène et qui d'ailleurs est un peu vénère contre la Three Six parce qu'il considère qu'ils ont récupéré certains de ses samples de soul. De ces tapes du début des années 90. Voilà, lui, il est un peu moins associé au délire Devil Shit, il est plus dans un délire pimp, mais il a quand même collaboré avec pas mal de... avec en tout cas au moins un artiste slash psychopathe qui s'appelle Maniac. Voilà, je vous conseille de vous plonger dedans si vous avez besoin de... si vous avez l'esprit un peu dérangé, ça peut vous faire du bien. Voilà, on continue dans le sud de la ville, donc notre tour des gangs de Memphis. Et donc il y a le quartier Riverside avec l'équipe du label Street Smart, de notre ami Tommy Wright-Third qu'on a écouté. Tommy Wright-Third, aka One Man Gang, qui lui aussi est un peu taré sur les bords. Il a donc créé ce label-là avec ses groupes Ten Wanted Men et Niggas of Destruction. Mais c'est aussi sa carrière solo qui est très riche dans les années 90, notamment l'album On The Run, dont est tiré le son qu'on vous a passé, qui est un des grands classiques du Devil Shit. Voilà, ça présente toutes les caractéristiques de ce style, des lyrics hyper trash et morbides, et qui empruntent au genre horrifique, tout en restant dans un univers street, et des instrus très glaçantes et grinçantes et angoissantes, enfin voilà quoi. Ça met un peu mal à l'aise, ça fait un peu froid dans le dos.
Une des covers d'albums les plus comiques du rap de Memphis.
Il a une ganache qui est assez incroyable, faut aller regarder sa tête, c'est génial. Et dans le quartier, on continue donc dans le sud de Memphis, dans le quartier Binghamton, il y a le Playa Posse, mené par un producteur très polyvalent qui s'appelle Blackout. Donc lui, il peut à la fois créer des trucs, des ambiances vachement tendues, glaçantes, comme dans la tape Dream World, qui est aussi un classique de ce style. Et puis aussi parfois des trucs plus doux et chauds, plus soulful et plus pimp, parce qu'on disait qu'il y avait aussi une ambiance pimp à Memphis qui est très présente.
Vraiment, ça rejoint ce délire Lakia qui est... Il y a et le gros David Sheet et ce côté pimp.
Notamment avec 8Ball et MJG qu'on a évoqué tout à l'heure au début de... Enfin, tout à l'heure, quoi. Au nord de la ville, maintenant, on va s'intéresser donc à DJ Sound, aussi un des pionniers qui a pris la suite du travail de DJ Spanish Fly avec DJ Squeaky et DJ Paul. Et lui, il se considère comme le pionnier en matière d'intégration des thèmes horrifiques dans le rap de Memphis. Et c'est pour ça aussi qu'il a aussi un peu une certaine aigreur vis-à-vis de la Three Six Mafia et du succès qu'ils ont rencontré, puisqu'il se considère comme étant arrivé avant, étant voilà.
Ouais, aigreur, jalousie.
Ouais, forcément, hein, parce que c'est comme ça.
Oui, c'est vrai qu'eux ont pété carrément à un niveau que les autres n'ont jamais atteint.
On peut considérer qu'ils ont pété en faisant un peu la même musique.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est souvent le cas. Ouais.
Ça leur fait beaucoup d'ennemis, mais quand même, entre les gens de Cleveland avec Bon & Tugs and Harmony, les locaux, et même à l'intérieur du groupe, au final, il y a eu des petits soucis d'argent à l'intérieur même de la Three Six Mafia.
Ils s'en sont pas trop mal sortis. De toute façon, généralement, les mecs qui réussissent après.
Quand t'as du succès, voilà, tu laisses rarement indifférent les gens.
Voilà, donc ça c'était DJ Sound. Il a accompagné de la Fraser Clique, donc du quartier Fraser, comme je disais, qui découpe bien sur des instrus très lofi et poisseuses. Donc sur les nombreuses mixtapes de DJ Sound et ses quelques albums solo aussi de certains des membres de la Fraser Clique. Donc je conseille d'aller regarder ça aussi. Et voilà, on va ensuite aller dans le quartier Ridgecrest, toujours dans le nord de Memphis, avec la Gimme Some Family, et dont le leader est Kingpin Skinny Pimp.
Très facile à prononcer.
Tenter de le prononcer 5 fois d'affilée, on verra qui rigolera.
Lui, il est plutôt proche de la Tri-6, et lui, pareil, c'est moins débile. Enfin, pareil, je dis pareil par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moins débile, et plutôt Pimp Shit.
Ouais.
Voilà, ce groupe comporte notamment Lil Yo, qui sera plus tard appelé Yo Gotti, et qui est un des rappeurs... Ouais, il est un peu disparu maintenant, mais bon, il était quand même important depuis...
À un moment, il était clairement au top.
C'était le fer de lance de Memphis.
Ouais, c'est ça. Dans les années 2010.
C'était plus trap, non, quand même, ce qu'il...
Ouais, c'est carrément trap. Ouais. C'est ça. Et puis enfin, j'ai envie d'évoquer, même si je ne connais pas leur quartier, parce que c'est des types absolument... Là, on est dans
l'obscurité
la plus totale. Ouais. Donc, je ne sais pas quel territoire ils ont... Voilà, ils ont sévi. Mais c'est donc le groupe Children of the Corn, qu'on appelle aussi Graveyard Production. Notamment, je vous conseille deux sons classiques qui s'appellent Deep Into the Wood, donc voilà, fin fond de la forêt, ça donne envie, et Devil Shit, voilà, qui sont des, comme le nom finalement de ce qu'on parle, qui sont des véritables incantations, et on a l'impression que c'est enregistré au fin fond de l'enfer, ça fait froid dans le dos.
Oui, il y a une sorte de concurrence pour vraiment atteindre le plus ténébreux et le plus démoniaque des sons.
Je pense qu'il y a clairement une petite compétition de noirceur. Ouais.
C'est spécialiste du genre. Tout à l'heure, tu parlais de Blackout, justement. On va s'écouter un de ses sons.
Ouais. Ça sera donc Mission of a Murder, donc dans la tape que j'ai évoquée, qui s'appelle Dream World, et qui est un...
Qui colle bien au sujet, quoi.
Ouais, complètement.
Ok, ça marche. Bah, on se fait ce son-là, et on se retrouve pour la dernière partie pour parler un petit peu des influences, justement, de tous ces mecs-là et de ce son horrorcore. Allez, à tout de suite. Vous êtes toujours dans Deeply Rooted sur Radio Fréquence Paris Pluriel. C'était Blackout, le son Mission of a Murder. On va faire maintenant la dernière partie qui traite des influences au niveau local, national, voire international. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe en France et même parfois ailleurs. Comment ils auraient pu récupérer ça. Donc ma question, ça va être déjà tout simplement, qu'est-ce qui reste de ce son justement Devil Shit sur place à Memphis, qu'est-ce que ça a laissé place à quoi, et ensuite, ouais, voilà, quel héritage pour cette ténébreuse musique, comme on peut l'appeler.
Bon, grosso modo, la scène actuellement, elle est divisée en deux parties, on va dire. Ceux qui sont dans la veine plus actuelle, Tri-6 Mafia, Yo Gotti, dont on a parlé, ou Young Dolph, qui est un autre rappeur de Memphis, et même en termes de production, Drama Boy, donc eux, ils sont plus dans cette veine actuelle.
De trap d'Atlanta, quoi.
Ouais, voilà, ouais. Exactement, qui roule un peu... les États-Unis en termes de son, et vous avez ceux qui sont restés dans l'underground et qui conservent le style David Sheet horrorcore.
Du son pour les puristes.
Voilà, pour les vrais, les purs, les durs. Mais avec un côté quand même, en termes de sonorité, moins crade. C'est plus actuel, ouais. Plus travaillé. Ouais. Ils sont moins dans le
production un peu évoluée. Quoi,
ouais, aussi. Ils ont arrêté d'enregistrer des sons dans le garage du garage. Quoi.
C'est dommage.
Oui, ça donnait un petit goût au tape, quoi. Et donc ça, c'est en termes de scène. Maintenant, en termes de son, ce que ça a pu produire, clairement, la scène de Memphis, ça a donné la scène d'Atlanta crunk. Ce que fait Lil Jon, c'est un descendant direct de ce qu'on a pu écouter tout à l'heure, Getting Crunk de Tommy Wright III. Mm-hmm. C'est ça, quoi. Tous ces bangers un peu de club criés avec des refrains catchy, mm-hmm. qui sont inspirés de sons comme Tear Da Club Up ou Break the Law de Tri-6. Tout ça, ça a donné le côté mainstream un peu d'Atlanta, on va dire. Mm-hmm. Et même psychologiquement, en termes de personnalité, je trouve que ça... Les gens de Memphis ont un petit côté dérangé. Du coup, ça a donné l'occasion à des rappeurs de pouvoir s'exprimer un peu plus, d'avoir une personnalité plus singulière, on va dire. Des mecs comme David Banner à Atlanta, Pastor Troy ou même Waka Flocka. Ça a libéré, on va dire, des rappeurs.
Ouais, dans l'image, ils ont élargi le champ des possibles.
Un truc classique, quoi. Et on peut même... c'est très long, qu'on peut même parler de Juicy J qui a fait émerger Lex Luger. Il y a des tonnes et des tonnes d'exemples de l'influence de Memphis.
Ok. Jojo, peut-être un truc là-dessus.
Ouais, pour
l'influence.
Un truc plus récent, dans les années 2010, au début des années 2010, à Miami, il y avait le Rider Clan, qui était un collectif proche de A$AP Mob. Voilà, si les A$AP Mob étaient plutôt inspiré du Skull and Chop dont on avait parlé en première émission. Le Rider Clan, c'est vraiment de la musique hommage à Memphis. Le leader du Rider Clan qui s'appelle Space Ghost Purp, il appelle sa musique le funk, P-H-O-N-K. Voilà, donc c'est vraiment totalement un hommage explicite, je veux dire, au Devil Shit de Memphis. Il y a aussi notamment Denzel Curry qui, lui, a une carrière qui s'est un peu mieux développée, en tout cas ces dernières années, qui a aussi fait partie de Rider Clan. Et dans ses tapes des années 2012-2013, on entendait clairement il y avait plein de morceaux qui étaient complètement hommage.
On s'écoutera ce son en dernier son, justement.
Ouais, on va vous mettre une petite illustration tout à l'heure. Ouais.
Des références ici, des rappeurs de la base.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment explicite, quoi. Voilà, sinon il y a aussi encore plus récemment, il y a ce qu'on appelle les SoundCloud rappers, il y en a pas mal qui ont été influencés plus indirectement et avec des hommages moins appuyés. Je pense notamment à Bones qui est le mentor des Suicide Boys. Les Suicide Boys aussi, en termes de flow, on se situe pas très loin des Lord Infamous, etc.
Si vous pensez au hardcore aujourd'hui, pour beaucoup c'est Suicide Boys, justement. Suicide Boys,
eux ne veulent pas qu'on les...
Oui, c'est vrai. C'est
un morceau qui s'appelle Stop Calling Us Hardcore.
Ouais. Voilà, mais bon, globalement, ils sont clairement dans une lignée.
Et puis ils ont aussi produit la dernière tape de Juicy J quand même, donc ça veut dire que voilà, il y a
une filiation qui est
quand même... filiation qui est assez évidente. Ouais. Il y a aussi les Buffet Boys de Miami avec notamment Pouya et je sais plus comment il s'appelle, notamment Pouya, c'est le leader, et c'est aussi un peu dans cette même veine là. Il y a aussi un groupe qui s'appelle, un collectif assez énorme qui s'appelle Schema Posse, et dont tu as fait partie Lil Infamous, le fils de Lord Infamous, et plusieurs autres rappeurs qu'on rattache aujourd'hui au courant emo rap comme Lil Peep, etc.
Des mecs qui se lamentent sur leur vie, c'est ça ?
C'est ça. Donc voilà, l'influence est assez large et assez vaste.
Ok.
On peut dire ça.
Bah, pour les stages, je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour, on a vu que ça avait quand même bien marqué son temps. Petit clin d'œil que j'aime bien faire sur le rap français qui nous concerne tout particulièrement. Sans tous les citer, voilà, y a quand même une petite brochette de rappeurs qui sont bien butés au son de Memphis. Vous pouvez les retrouver dans une interview sur le site de Swamp Diggers, on vous mettra le lien qui est sorti fin 2017. Où ils partagent un peu justement leur amour pour Memphis. Quelques noms en vrac que j'avais trouvé à Keto, notamment du groupe Sniper, qui lui était clairement fan de la scène. Il va rencontrer un autre personnage à travers cette passion, c'est CDC, un membre du Butter Bullets, qui lui, voilà, il fait clairement du son ténébreux, tous ces genres de choses. Il va réussir justement à poser avec des mecs qui sont des idoles pour lui, quoi. Project Pat, qu'on a évoqué tout à l'heure, Evil Pim, Gangsta Boo. Voilà, des bons essais, bien réussis. Après, ça reste de l'underground, quoi, pour réussir à faire marcher ça. C'est une autre paire de manches. Et de CDC, on remonte à un autre artiste qu'on apprécie tout particulièrement, je crois, autour de cette table, c'est Monsieur Al Capote.
On est enfin arrivé à le placer dans l'émission.
Voilà,
c'est
exactement.
C'est le seul but de cette émission,
C'est bon, c'est fini.
Voilà, exactement. On pourrait s'arrêter là, mais non, il faut quand même dire que voilà, cet univers, L'Enfer, son dernier album, s'appelle Inferno, Chambre de torture, des choses comme ça, les délires sataniques, il joue beaucoup, beaucoup là-dessus. Son personnage, c'est un puzzle de vraiment beaucoup d'influence, mais il y a vraiment une grosse partie qui est, il l'avoue lui-même, du côté de la Trisix, Devil Pimp et de Memphis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. On vous a balancé normalement un son sur les réseaux sociaux avec CDC, Al Capote et Project Pat, justement. Donc ça peut vous donner une idée un peu de l'horrorcore, les Devil Shit version française.
La ténébreuse musique, comme ils appellent ça en
France. Exactement.
Exactement. Et voilà pour la France. Après, pour l'international, c'est un petit clin d'œil que tu avais trouvé, il me semble.
Un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a plusieurs artistes aussi dans ce délire en Finlande. Voilà, avec des noms assez bizarres, donc je ne saurais pas les redire, mais aller regarder la scène finlandaise de Devil Shit.
Voilà. Passionnant, j'imagine, n'hésitez pas à aller voir ça. On a fait le tour des influences, on a évoqué beaucoup d'artistes, on n'a pas pu couvrir tout le monde, on complétera de toute façon sur les réseaux sociaux, et on vous invite à aller dessus pour voir un peu justement des pochettes, des sons, des sources, des choses comme ça, donc la page Facebook Deeply Rooted de l'émission, et le Twitter Deeply Rooted FR. Pour compléter encore plus la petite nouveauté qu'on a lancée juste avant l'été, c'est de vous proposer une playlist après chaque émission pour approfondir en musique la scène. Celle de la baie déjà dispo si vous voulez vous enjailler plutôt en soirée justement. Et on vous concoctera quelque chose de plus ténébreux pour Memphis très prochainement.
Pour un autre genre de soirée.
Exactement. On vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur le site de la radio Fréquence Paris Pluriel, rfpp.net, pour consulter les autres programmes, soutenir la radio et tous ces bénévoles. Je vous le rappelle, merci à eux encore une fois. Merci Jojo, merci Momo.
Merci à vous de m'avoir accueilli
un
pour
plaisir
la première
émission. Un plaisir de faire ça tous les trois. Comme on vous l'a annoncé, on se quitte sur Denzel Curry, Demons on My Mind, issu d'une mixtape. Et qui est clairement hommage à Memphis,
totalement,
comme tu l'avais
totalement,
dit.
Ouais.
Et on se retrouve le mois prochain pour étudier une nouvelle scène du rap US. Allez, ciao et bonne soirée.
Peace.
Ciao, ciao.